un prélude. Alors le mot vient du latin préludium, avant le jeu. Et traditionnellement, c'est une pièce avec laquelle on essayait l'instrument pour voir s'il était bien accordé, si les doigts fonctionnaient bien. Et puis, par extension, c'est devenu l'inspiration du moment, comme un petit instantané. Chopin en écrit 24. Alors pourquoi 24? Vous savez qu'on a dans notre système musical 12 sons différents. C'est comme si on avait 12 couleurs sur notre palette. Et au-dessus de chaque son, on peut utiliser deux modes. C'est-à-dire, un mode, c'est un ensemble de notes. On a dans la musique classique le mode majeur et le mode mineur. Le mode majeur est plutôt lumineux, le mode mineur plus sombre. Donc c'est comme si on avait 12 couleurs et 2 éclairages. Pour chaque couleur, ça nous donne 24 possibilités. Et Chopin va toutes les exploiter. Alors, je suis très gêné d'avoir une posture d'analyste face à une œuvre comme celle-ci, enfin aux autres aussi, mais alors là encore plus. Voilà, c'est un chant de l'âme, alors pardonnez-moi, je me dis que parfois de poser des mots sur la musique permet d'aller plus loin dans le ressenti. C'est ma seule excuse. Ah, le premier prélude. Si vous sentez, mais Chopin n'arrête pas d'accélérer et de ralentir. Il fait bouger sa pulsation en fonction de sa pensée musicale et ça crée une sorte de sensation organique. Notre rythme cardiaque se cale sur le sien, notre respiration se cale sur la sienne. Je vous le remets une fois, c'est pas très long, vous allez sentir. Vous l'avez ? Alors, on peut dire que c'est sa marque de fabrique. On appelle ça le rubato. Ça vient de rubato, ça vient de, comme en anglais, tout robe, dérobé en français. On vole un peu de temps ici, on le rajoute par là. Et ce rubato, alors si on parlait de ces rythmes d'éternité tout à l'heure, quand un rythme est constant, régulier, métronomique. Qui nous place devant l'éternité. Le rubato, au contraire, cette façon de faire fluctuer la musique, humanise la musique. Alors là, Chopin est complètement dans son élément. Évidemment, c'est un poisson, il fait ça. Comme ça, tout le temps. Et même quand il a une main qui part à un rythme d'éternité, l'autre main, par-dessus, va fluctuer, toujours. On va écouter le deuxième prélude. Donc, le premier était dans une tonalité majeure, le deuxième va être dans une tonalité mineure. Les préludes marchent par paires. Et ces paires forment des couples d'opposés. Le premier, on peut dire, c'est comme un élan de vie. Le deuxième, peut-être vous vous en doutez, on va voir ce qu'il nous raconte. Alors qu'est-ce qu'on a là? Un rythme d'éternité. Une petite mélodie sur ce rythme. Cette mélodie porte un nom. Elle était chantée déjà par les moines au Moyen-Âge, dans les messes d'enterrement. On l'appelle le Dies Irae, ce qui veut dire le jour de la colère, et ça désigne le jugement dernier. Donc la mort, bien sûr. Et au-dessus de cette mort à la main gauche, on a l'homme face à la mort. Écoutez, ressentez. On déjà le rythme de la marche funèbre. Aurait-il un espoir? Faut que je vous dise que Chopin était obsédé par l'idée de la mort. Quand il était adolescent, il a perdu sa petite sœur qui est morte de la tuberculose. Accessoirement, il a attrapé la tuberculose, probablement à ses côtés. Il en est mort aussi, lui, mais des années plus tard. Et il confiait qu'il pensait tous les jours à la mort. Il a demandé avant de mourir que son cœur soit séparé de sa poitrine pour être sûr qu'il ne se réveillerait pas dans le tombeau. Bon, c'est une époque, on était peut-être moins assujettis à la foi chrétienne, on avait un autre rapport à la mort. C'est l'époque où, de l'autre côté de l'Atlantique, Edgar Poe écrit ses nouvelles fantastiques, qui sont presque de l'épouvante déjà. Bon, changeons d'ambiance. Troisième prélude majeur, un tourbillon de joie. Écoutez. Et son pendant mineur où Chopin pleure. Thank you. Et je vous propose d'écouter les deux derniers préludes, le 23e majeur. Lumineux qu'on a envie de battre des paupières. Profitons-en car ça ne va pas durer. Le 24e prélude, le dernier. Terminer son cycle des tonalités, il arrive dans la dernière de ces tonalités qui est Ré mineur. Ré mineur, on en a parlé aux autres séances, symbolise la mort. C'est la tonalité que choisit Beethoven quand il écrit sa 17e sonate, qu'il écrit son testament. C'est la tonalité du quatuor La jeune fille et la mort de Schubert quand il apprend qu'il est condamné. C'est la tonalité de tous les requiem. Voilà, et c'est la tonalité de ce prélude. Alors à la main gauche, on a une sorte de rythme de mort, hein, toujours le même du début à la fin, avec ré à se taper la tête contre les murs. Et la main droite, encore une fois, c'est l'homme face à cette mort. Écoutez cette force de la main droite, cette noblesse de la main droite. Il ne se résignera pas, il se battra jusqu'au bout, il n'y a pas de résignation. Écoutez. Ressentez. Il remonte après vers la lumière. La même note sur le même rythme, c'est un autre symbole de la mort. À part un accord pour finir, non, allez, à trois ré. Bam, 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 c'est fini. Voilà, c'est prélude. Alors, qu'est-ce que c'est que cette œuvre ? Pour moi, ces préludes, c'est du premier souffle au dernier battement, l'homme. Vous savez, chez Beethoven ou chez Schubert, c'est la même chose, on est dans une tradition orchestrale. Le piano est traité comme un orchestre. Chez Chopin, on est dans une tradition vocale. Le piano est traité comme une voix humaine. Chopin adorait l'opéra, les chanteurs, les chanteuses d'opéra, et il s'en inspirait pour son piano, et c'est véritablement une voix qu'on entend dans son instrument. On parlait aussi de la symbolique des registres. Chez Beethoven, quand vous avez un son grave, c'est un symbole de l'obscurité. Le registre aigu, c'est la lumière, le divin, et les registres médiums, c'est l'homme qui peut monter vers la lumière, descendre vers l'obscurité. Bon. Tous les registres du piano de Chopin, c'est l'homme. Et dans un nocturne, quand vous avez une étoile qui scintille, c'est pas la lumière de l'étoile qui descend sur l'homme, c'est toujours l'homme qui regarde l'étoile. Et je pense, c'est très personnel, mais je pense que c'est entre autres pour ça que sa musique nous touche tous et qu'elle nous touche autant. Finalement, quand son cœur bat, c'est le nôtre qui bat avec lui, et son âme qui chante, c'est la nôtre.